Il a publié un statut Facebook dans lequel il dit « Je suis en colère ce matin, car j'estime que nous sommes entrés dans une situation de guerre, puisqu'on nous demande de prendre des décisions de médecine de guerre. » Michael Bensoussan, médecin spécialiste gastro-entérologue à l'hôpital Charles-Lemoyne. Bonjour, docteur.
Bonjour, Monsieur Drainville.
Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites « On nous demande de prendre des décisions de médecine de guerre »
Ben, c'est l'article qui est sorti dans la presse et qui correspond à une réalité, c'est-à-dire que on nous a présenté un protocole de sélection des patients pour le cas où dans une semaine, deux semaines ou trois semaines, le système de santé au Québec serait totalement débordé et ne serait plus en mesure de soigner tout le monde. Donc, à la demande du gouvernement, un comité d'éthique avec des professionnels de la santé s'est réuni et a mis en place un protocole qui établit un certain score et qui ferait en sorte que si l'hôpital déborde à 200% et que un patient, une patiente arrive à l'hôpital en étant dans un état trop malade et qu'il n'y avait qu'un lit pour deux personnes qui sont très malades, eh bien, il y aurait un protocole qui permettrait de prioriser l'un ou l'autre. Bon. Je vous dirais que quand ce protocole nous a été présenté, ce protocole de sélection d'admission aux soins intensifs, pour être précis, bon, moi, ça m'est rentré dedans, hein, comme beaucoup de médecins, parce que, Monsieur Drainville, moi, je suis pas formé pour ça. Hein, je suis formé pour soigner des gens, soigner tout le monde. Je suis pas, c'est complètement contre-intuitif pour quelqu'un qui a fait les études de médecine que j'ai fait, de sélectionner qui on va soigner, qui on va pas soigner, si on est rendu là. Et je vous dirais que taguer les patients comme ça dans leur leur pronostic et leur capacité à s'en sortir et donc essayer de sauver le plus de vies en priorisant les gens qui sont le moins malades, c'est ce qu'on fait sur des terrains de guerre, c'est ce qu'on fait dans des situations de guerre. Donc je comprends qu'on arrive à une situation qui ressemble à de la médecine de guerre et c'est vrai que cette crise sanitaire prend des proportions qui ressemblent à une situation de guerre, c'est une crise sanitaire absolument monstrueuse, catastrophique, mondiale, sans précédent. Donc c'est une situation de guerre, mais j'aimerais bien, et c'est ça que je voulais dire, j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi avant qu'on se rende là, il n'y aurait pas telle ou telle ou telle ou telle mesure qui serait prise, des mesures de guerre. Et c'est pas ce que je vois venir.
Par exemple, donnez-nous des exemples de ce que vous considérez être des mesures de guerre qui devraient être prises maintenant, avant qu'on soit obligé de trier les patients.
Et des réquisitions, par exemple, Monsieur Drainville, on nous dit qu'on manque de locaux et qu'on manque de personnel pour soigner tout le monde. J'entends bien, mais alors moi j'aimerais bien qu'on réquisitionne des locaux, les patinoires, les piscines qui ne servent pas, des gymnases qui sont fermés à cause de la Covid, les cliniques privées, Monsieur Drainville, où il y a des infirmières, des médecins, des respirateurs, des locaux. Comme l'a démontré Gabriel Nadeau-Dubois cette semaine, on arrive à obtenir des rendez-vous pour avoir des prothèses mammaires ou des cataractes. Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui que c'est absolument pas logique. Il y a des infirmières en retraite, il y a des infirmières sur mon statut Facebook dont vous parlez tantôt, Monsieur Drainville. Il y a des infirmières qui travaillent dans les pharmacies à travers le Québec qui disent « Moi, je suis candidate à quitter ma pharmacie où je peux de toute façon plus travailler en ce moment et aller prêter main forte dans l'hôpital. » Et l'armée, Monsieur Drainville, elle est où l'armée là par contre? Je monte du provincial au fédéral. Dans une situation de guerre, l'armée devrait être impliquée. C'est ce qui se passe dans bien des pays. Regardez la catastrophe qui est en ce moment au Brésil, dans la région de Manaus, dans la région de Brasilia, où il manque d'oxygène, il manque de lits, il manque de tout. Eh ben, c'est l'armée qu'on implique dans ces cas-là, parce que l'armée a justement les moyens et la formation pour faire de la médecine de catastrophe. Alors si on est rendu à devoir prendre des décisions dans notre système de santé de catastrophe et de guerre, j'aimerais bien avant que l'armée vienne nous prêter main forte, parce que eux savent faire. Et ils sont où? Moi, je ne les vois pas.
Est-ce que votre cri du cœur vient du fait, Dr Bensoussan, que vous craignez de ne pas être capable, de ne pas avoir la force de faire ce qu'on vous demande, parce que vous n'avez justement pas été formé et vous n'avez pas fait le choix de la médecine pour choisir qui on laisse mourir, mais bien pour tout faire, pour faire vivre, pour soigner afin de guérir.
Moi, en tant que soignant, à titre personnel, je ferai toujours sur le moment ce qui me paraît le plus logique, le plus éthique, le plus pratique, le plus moral. Et donc, si à un moment, je suis évidemment rendu dans une situation catastrophique comme ça, et que je dois laisser partir sans faire des efforts, le soigner, un patient ou une patiente qui est très, 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 très malade et qui a un pauvre pronostic de vie par rapport à quelqu'un qui est en meilleure santé et qui a, par exemple, des enfants, une vie de famille, etc., etc., je serai capable de le faire. Ça me rentrera dedans, évidemment. C'est pas à ça que j'ai été formé, mais je le ferai, et je le ferai probablement, comment dirais-je, avec des états d'âme, mais je le ferai parce que c'est mon rôle de professionnel. Mais cela dit, à titre collectif, j'ai quand même deux remarques à votre question. La première, c'est que c'est pas la première fois qu'on se le dit, Monsieur Drainville, mais l'état moral du personnel soignant à travers le monde en général, mais au Québec en particulier, il est très très mauvais en ce moment. Je veux dire, tout le monde est épuisé. Je veux dire, la charge mentale que c'est d'être un travailleur de santé qui vit le nez dans la Covid depuis 10 mois et pour encore on ne sait pas combien de temps, elle est terrible. Donc, il y a des gens qui craquent, il y a des médecins qui se suicident, comme la collègue urgentiste à Granby. Je veux dire, sur la santé mentale des travailleurs de santé, l'heure est grave. Alors, si maintenant, en plus, on rajoute à ça une charge mentale de devoir sélectionner des patients et expliquer à des familles qu'on va pas pouvoir soigner papy ou mamie parce qu'on n'a pas assez de lits et parce que le protocole de sélection mis en place par le gouvernement l'implique, ça va être, au point de vue de la santé mentale de tous les travailleurs de santé du Québec, l'explosion, la catastrophe. Ça, c'est ma première remarque. Mais ma deuxième remarque, Monsieur Drainville, c'est que je raisonne évidemment en termes collectifs. Si je mets le doigt dans cet engrenage et que je commence à dire, ok, on est rendu là, ça veut dire qu'à un moment donné, quelqu'un qui est très 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 malade, je le soignerai pas, je l'intuberai pas. Ça choque pas grand monde quand la personne en question, c'est quelqu'un qui a 85 ans et qui est insuffisant cardiaque, insuffisant rénal, diabétique, etc., etc. Mais si on met le doigt dans cet engrenage-là, et si l'épidémie continue d'être hors de contrôle comme elle est jusqu'à date, parce qu'il faut appeler un chat, Monsieur Drainville, on ne contrôle pas cette épidémie, qui me dit qu'en tant que soignant, dans 6 mois, je ne serai pas rendu à choisir qui je vais intuber entre deux pères de famille de 39 ans. Comprenez-vous? Parce que j'ai mis le doigt dans cet engrenage-là. Donc je le redis, s'il faut que je mette le doigt dans cet engrenage, Monsieur Drainville, parce que c'est mon rôle et parce que c'est mon métier de médecin, je le ferai, mais je veux que les gouvernements provinciaux et fédéraux me prouvent d'abord qu'ils feront tout ce qui est possible pour pas qu'on se rende là, et je ne crois pas que nous y soyons maintenant. J'ai besoin de réponses. Moi, et tous les travailleurs autour de moi, je vous le dis.
Je veux juste que vous sachiez que j'ai pris sur moi de transmettre au bureau du ministre de la Santé vos deux statuts Facebook, Dr Bensoussan, et sur la question des cliniques. Et là, je ne défends pas la position du gouvernement. Okay? Je vous dis qu'ils m'ont retourné une réponse. Sur la question des cliniques privées, par exemple, ils m'ont dit qu'il y a 22 ententes qui ont été signées pour des chirurgies avec des cliniques médicales spécialisées, là, genre Rockland MD, là, je dis pas que c'est celle-là, là, mais c'est de ce type-là. Et donc, 22 ententes qui ont permis de réaliser 18 000 chirurgies dans ces cliniques privées. Donc, ils disent qu'ils s'en fait déjà. Pour ce qui est des soldats, pour ce qui est des militaires, la réponse que j'ai eue du bureau du ministre Dubé, c'est que les militaires, au printemps, comblaient dans les CHSLD des postes qui ont été maintenant comblés par les nouveaux préposés aux bénéficiaires, les 7000 qu'on a formés pendant l'été.
Et donc, mais tout ce que vous dites est vrai, hein. J'ai pas de problème avec ça, mais simplement ce que vous dites, c'est que les cliniques privées participent parce que les listes d'attente n'explosent pas. Et ça, c'est parfait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut organiser aussi les priorisations, comprenez-vous. Les listes d'attente n'explosent pas, mais si on est rendu à un moment donné où on nous dit « oui, mais là, on va plus pouvoir soigner tout le monde », peut-être qu'il va falloir convertir l'activité des cliniques privées avec lesquelles on a une entente. Et pour ce qui est de l'action des militaires, effectivement, oui, ils étaient là en avril, au pic de la première vague. Ça veut dire qu'ils sont mobilisables. Et là, j'attends effectivement du gouvernement fédéral qui ait de nouveau une mobilisation, par exemple pour la vaccination, pour nous aider à nous sortir de cette deuxième vague, qui est une autre vague, une autre histoire.
Juste en terminant, Dr Bensoussan, est-ce que vous êtes venu proche de craquer? Parlez-moi de vous.
C'est pas été facile personnellement. Je veux dire, moi je me suis fait rattraper par ça. Je pensais que je tiendrais et que j'aurais aucun problème à affronter ça. J'étais un peu débordé par mes émotions quand j'ai pris connaissance du protocole de sélectivité des patients avant l'admission aux soins intensifs. Quand j'ai vu à quel point c'était réel, à quel point on nous disait la question. Quand on nous l'a présenté jeudi, on nous disait pas on va peut-être l'appliquer. On nous disait, on va l'appliquer. La question, c'est quand. Je vous dirais que depuis, les cas baissent un peu, ce qui nous laisse l'espoir de dire que peut-être on se rendrait pas à ce protocole-là. Mais jeudi dernier, quand on nous l'a présenté, quand je suis rentré à la maison, j'étais émotif. J'ai eu 2-3 jours où c'était difficile et où j'étais sur le bord de craquer. Et si j'ai fait ce statut Facebook aujourd'hui et que vous me tendez le micro, c'est parce qu'en quelques jours, j'ai réussi à transformer cette tristesse profonde en une colère qui me paraît saine. Parfois, la colère, c'est pas une bonne conseillère. En ce qui me concerne, j'essaye de structurer ma pensée et de délivrer un message en termes de colère saine.
Oui, pour provoquer du changement. Colère qui deviendra un carburant pour le changement.
J'espère.
Oui, voilà. Docteur Michael Bensoussan, d'abord, on est content que vous soyez là. Faut pas lâcher. Merci. Et saluer les gens de Charlemagne, vos collègues, vos confrères, vos consoeurs qui sont au combat pour nous. On apprécie tout ce qu'ils font pour nous. Vous êtes d'une certaine manière leur voix. Alors saluez-les et bon courage.
Évidemment.
On lâche pas?
Merci.
On lâche pas.
Merci. On lâche pas, Bernard.
Salut. Merci. Salut, Michael. Merci. On s'en va à la pause.